shikira ya kose na ye opeshe ijasere obo nya kikwiri kwe ikama na ye opeshe ijasere inwo bako kuyo wongwe ma ye opeshe ijasere iminiko na ye benya.
J'ai appris à connaître des gens qu'il est de bon ton de décrier dans nos salons confortables, les ruffians de la Palme. Ce sont des marchands qui, pour le compte d'une compagnie commerciale, s'installent en pleine jungle, vivent au milieu des pitons, des moustiques et des scorpions. Jour après jour, dans un isolement inimaginable, ils tissent des liens invisibles avec les hommes de la forêt. Ceux-ci leur rapportent l'huile, le caoutchouc, l'ivoire. Ils l'échangent contre du tabac, du rhum, des perles, des hameçons. Les palabres sont interminables, les voleurs s'en vergognent et au bout du compte, le gain est assez maigre. On les appelle ruffians parce que, jadis, les agents de nos firmes trafiquaient un peu l'esclave. C'est fini, bien sûr. Mais ceux qui n'ont jamais mis les pieds en Afrique continuent de les vilipender sous prétexte qu'ils profitent de la naïveté de ces pauvres nègres. D'abord, les nègres ne sont pas naïfs. Ensuite, s'ils aiment les perles de verre et de tabac, c'est leur droit. Racontez-leur que nous, les Blancs supérieurs, nous sommes prêts à nous entretuer pour quelques bouts de papier sale sur lesquels on a écrit une livre sterling. Ils hurleront de rire. Voilà, alors c'était le portrait des premiers informateurs de Marie Kingsley qui lui seront très utiles parce que dans ses voyages, pour avancer à l'intérieur des terres, pour avancer le long des rivières, il faudra qu'elle fasse du commerce. Et ils lui ont appris à faire du commerce. À ses yeux, ils ne sont pas les pires personnages blancs qu'on puisse trouver en Afrique. Elle trouve les missionnaires bien pires. Et les administrateurs coloniaux, les missionnaires qui, par exemple, elle a vu tout de suite que le vouloir imposer la monogamie en Afrique était une grossière erreur. Si vous imposez la monogamie en Afrique à un homme à 4 femmes, bon, il en laissera 3 dans la plus grande des solitudes. La solitude en Afrique, c'est dramatique. Socialement, c'est pas vivable. Donc, c'est une grossière erreur des missionnaires de vouloir imposer la monogamie sans voir à quoi sert cette structure polygamique de mariage, qui est aussi une structure d'aide, de coopération sociale, etc. Enfin, elle a sur toutes ces choses qui se passent en Afrique une vue très, très moderne, si on veut, et qui va tout à fait à l'encontre de ce que disent... ses contemporains.
Mais elle vit comment sur place? Est-ce qu'on le sait dans le livre? Est-ce qu'on découvre quels moyens elle a de comprendre ça? Est-ce qu'elle vit longtemps avec les gens quelque part? Est-ce qu'elle fait des choses avec eux? Comment ça se passe?
Alors, d'une part, elle rend visite aux Européens qui sont sur place. En général, elle connaît, le gouverneur ou enfin les agents britanniques qui sont sur place. S'ils ont des femmes, bon, elle les rencontre. Mais elle a de l'argent. Avec son argent, elle achète justement des perles, de la verroterie, enfin différents produits. Elle se loue des porteurs, un interprète ou des interprètes. Et elle décide, on ne connaissait pas bien l'Afrique à l'époque, mais elle a des idées. Par exemple, à un moment donné, elle veut absolument remonter l'Ogoué, le fleuve Ogoué. Elle sait que par là vivent telle et telle ethnie et elle a envie de les rencontrer. Alors elle organise des voyages comme ça. Elle décide, elle ne sait pas très bien où elle va, en fait, avant de partir. Et pour certains endroits, il n'existe pas de carte géographique. Mais elle a, alors elle est entourée d'Africains, en fait. Elle est pratiquement la seule européenne. Et elle arrive à se faire respecter. Bon, alors, elle une chose curieuse, pas curieuse, mais elle s'habillera toujours tout à fait à l'anglaise. Enfin, elle a ses longues jupes, elle les traîne sur les sentiers à serpents sans problème. Elle a ses ombrelles, ses petits cols empesés, parce qu'elle dit, je ne veux pas me promener en Afrique dans une tenue dont j'aurais honte en Angleterre. Donc, je vais avoir la même tenue ici. Puis d'ailleurs, c'est une manière de me faire respecter. Et aussi, elle n'aura jamais d'histoire d'amour avec d'Africains parce qu'elle pense que ça serait, elle perdrait un peu de son pouvoir de négociation face à eux et puis un peu du respect qu'ils leur donnent. Donc, elle s'interdit, même si quelquefois elle a des grandes envies. Hein, elle est, comme je dis, elle est entourée de... souvent, c'est des hommes, d'ailleurs, c'est porteurs, tout ça, elle interprète, c'est des hommes. Très bonne condition physique, etc. Bon, elle, quelquefois, elle aimerait bien se laisser aller, une nuit tropicale, etc. Elle a des envies comme ça, romantiques. Mais elle dit non, je suis perdue. Si je ne peux pas faire ça, c'est pas du tout pour des raisons, j'entends, racistes. Elle pense que ce serait mauvais dans l'équilibre des forces. Elle est quand même toute seule face à tout ce groupe. Et c'est comme ça qu'elle voyage à l'intérieur. Au bout d'un, ça lui prend quelques semaines. Puis elle rentre dans une des villes ou des garnisons britanniques qui existent dans la région où elle est. Et puis là, elle revient un petit peu. Elle fait un peu l'anglaise des colonies, mais disons sans, mais toujours, elle raconte ce qui lui est arrivé. Alors comme il lui arrive toujours beaucoup de choses assez extraordinaires, on l'aime bien dans les salons parce que même si elle n'est pas une personne, c'est pas qu'elle soit pas une personne convenable, mais enfin elle sort de l'ordinaire, elle est très amusante. Alors elle a toujours beaucoup de succès dans les salons. D'ailleurs, il y a une histoire que j'aimerais bien rapporter pour qu'on voit un peu le genre de personnage que c'est qui lui arrive avec un léopard. Au cours d'une de ses balades en jungle, Marie fait étape dans un village fan. Or, un léopard s'y était arrêté aussi, mais contre son gré. Il était pris dans un piège. La méthode africaine consiste à laisser l'animal rugir et se débattre, sans boire ni manger, jusqu'à ce que mort s'en suive. Marie essaye de dormir, mais les cris du captif lui sont insupportables. Nul ne mérite une fin aussi atroce. Elle se lève, se dirige vers le piège et se met à trembler. Elle a oublié ses chaussures et la nuit, les serpents voyagent à travers les herbes enfin fraîches, en rang serré. Au pays tropical, elle est nu-pied dans l'obscurité équivaut à un suicide. Enfin, elle atteint la cage et commence à la démonter. Le léopard, à travers les pieux, lui déchire sa jupe. Elle continue. Puis elle s'écarte. Au prisonnier d'élargir la sortie à sa mesure. Ainsi fait-il, mais au lieu de filer vers la forêt, il vient vers elle, la renifle d'un air gourmand. « Va-t'en, idiot !» Il obéit. Elle respire. Soudain, quelque chose jaillit d'un buisson et elle manque s'évanouir de terreur. C'est un fan qui l'a suivi, l'a vu donner un ordre au fauve et le fauve lui obéir. Alors le fan se prosterne à ses pieds, est certainement une sorte de divinité à laquelle il vaut mieux se soumettre.
Les chansons que vous entendez, comme je vous le disais tout à l'heure, sont des chansons du Nigeria. Alors juste vous en parler quelques mots, puisque nous avons choisi exprès ces musiques pour illustrer le livre dont nous parle Evelyne Merlard aujourd'hui sur Homme et Ménage, 93.8 si jamais vous nous rejoignez. Eh bien, c'est des chants de jeunes filles qui chantent surtout lors des cérémonies nuptiales qui durent 7 jours et 7 nuits. Et c'est des jeunes filles qui ont 10-13 ans. Et elles font l'éloge, bien sûr, dans ces chansons de la mariée. Alors, elles jouent de divers instruments, d'une calebasse, par exemple, qui est utilisée comme un tambour par plusieurs des jeunes filles. Et il y a aussi, bien sûr, les rythmes des mains, les rythmes, les figures de base de danse. Et puis, on voit aussi des chants qui sont enchaînés les uns après les autres. Elles ne s'arrêtent pas. Et la soliste que vous avez entendue, eh bien, imaginez-vous qu'elle a 11 ans. Celui que vous entendez maintenant est un autre groupe de jeunes filles, toujours du Nigeria. Et ces chants appartiennent aussi et sont chantés aussi par des jeunes filles qui ont entre 10 et 13 ans et qui ont pour sujet l'histoire des jeunes filles elles-mêmes, de leur famille, de leurs amis, de leurs amies. Et elles ressemblent beaucoup à ceux que vous avez entendu tout à l'heure, bien évidemment. Mais en fait, si on était des grands spécialistes de la musique africaine, eh bien, on reconnaîtrait qu'il y a une structure et des mélodies qui sont assez différentes. Cette fois-ci, les chanteuses sont accompagnées d'un tambour qui est, lui, joué par les hommes, parce qu'en général, c'est très rare que les femmes jouent du tambour. Mais tout à l'heure, nous vous ferons entendre des femmes qui, elles, quand même, jouent le tambour. Alors revenons à notre africaine, Evelyne.
Oui, et peut-être à la colonisation. Elle dit quelque part, ben, les Blancs se conduisent comme des tricheurs. Leur malhonnêteté poussera les Noirs à s'unir contre nous en utilisant nos méthodes. Nous créons lentement une Afrique de voleurs. Alors évidemment, elle voit, elle n'a pas d'illusion hein, sur la colonisation. Elle voit les dégâts qui se font, elle prévoit déjà les conséquences et on peut dire que on les voit aussi aujourd'hui. Enfin, je pense qu'il n'y a pas de doute qu'il y a un lien entre ce qui s'est passé vers la fin du 19e siècle en Afrique, même avant déjà, parce que avant le 19e siècle, il y a quand même 3 siècles de trafic d'esclaves d'un continent qui a été saigné à blanc. Il a perdu, je crois que c'est en tout cas 100 millions de personnes, comme ça, lentement, hein, en 3 siècles. Et ça, c'est quand même pas les Africains qui l'ont commencé, ce trafic. Enfin, en tout cas, ce trafic qui allait vers l'Amérique. Hein, ben, longtemps, on est vraiment venu les chercher pour les embarquer de force. Ah, et après ces 3 siècles de trafic d'esclaves, même s'il y a eu un certain trafic d'esclaves à l'intérieur du continent. Mais bon, ça, c'est une autre question. On pourra en parler une autre fois. Il y a une entreprise de destruction des structures africaines consciencieuses, fait par pas seulement par les Anglais, par les Français, par les Belges. Il y a quelques pages dans le livre aussi sur la manière dont les Belges colonisent le Congo.
Elle voyage où, Marie Kingsley, principalement?
Alors, elle s'est toujours intéressée d'abord à l'Afrique de l'Ouest. Donc, elle voyage dans des régions qui sont aujourd'hui la Côte d'Ivoire, le Gabon, le Libéria, le Togo, le Cameroun. D'abord dans cette région-là. Et puis, à la dernière année de sa vie, elle est en Afrique du Sud. C'est l'année 1900, c'est l'époque des guerres entre les Boers et les Anglais. Donc deux colonisateurs différents de l'Afrique du Sud qui s'entre-déchirent pour le pouvoir en Afrique du Sud. Bon, elle a l'occasion de voir ces sales guerres entre eux parce qu'apparemment les Anglais n'étaient pas se sont battus d'une manière assez terrible aussi contre les Boers, même si aujourd'hui les Boers sont malheureusement les tenants, les grands tenants de l'apartheid en Afrique du Sud. Bon, à l'époque, c'est aussi 1900, c'est souvent des paysans qui comprennent pas grand-chose à ce qui arrive, parce qu'ils ont toujours eu leur Bible, puis leur troupeau, et puis leur culture, et puis ils n'ont pas réfléchi à beaucoup plus loin. Et bon. Alors, elle parle un petit peu dans son livre aussi de ces guerres entre eux. Elle parle évidemment aussi des guerres entre les colonisateurs de l'Afrique du Sud et les Africains, les Africains noirs de l'Afrique du Sud. Ça aussi, ça nous rejoint à l'actualité d'aujourd'hui, alors que nous avons eu Nelson Mandela et Winnie Mandela qui nous ont à l'honneur de passer à Genève. Hein, la semaine dernière, c'était assez émouvant d'ailleurs.
Tu y étais?
Oui.
Waouh! Tu nous raconteras ça tout à l'heure.
Oui. J'ai même chanté aussi en attendant l'arrivée de Nelson Mandela.
Alors on en parle tout à l'heure.
D'accord.
Mais alors, en fait, elle va rapporter ce qu'elle voit de la colonisation, parce que, bon, d'après ce que tu dis, elle ne voyage pas que dans les colonies britanniques, finalement. Hein. La Côte d'Ivoire, c'est français à ce moment-là, etc. Donc, elle va faire un petit trajet dans tous les pays colonisés de ce moment-là. Mais quand tu disais tout à l'heure, elle va rapporter ce qu'elle voit, elle va critiquer la présence des colons dans ces pays-là, elle le rapporte sous quelle forme? Elle va écrire dans les journaux, elle va faire des rapports par rapport à ce qu'elle a vu. Comment on saura ce qu'elle a ressenti?
Oui, alors elle va faire des conférences. C'était très courant à l'époque de faire des conférences pour des sociétés de géographie, par exemple. Elle fait des conférences. Elle prépare des livres. Elle va écrire des livres qui seront publiés. Je ne me souviens pas exactement des titres maintenant, mais il y a le Souvenir du Golfe du Bénin, des choses comme ça. Elle va faire des articles dans les journaux aussi où on va raconter ses aventures. Quelquefois, on l'interviewe. Et elle doit se battre contre les journalistes parce que les journalistes racontent sur elle en fait le contraire des fois de ce qu'elle a dit, le contraire de ce qu'elle veut. Par exemple, elle s'était battue une fois terriblement parce que le journaliste avait parlé d'elle et du cannibalisme qui existait en Afrique. Vous pouvez imaginer ce qu'il avait dit enfin, sur des Africains qui... Et ce que ça suggère, le cannibalisme. Alors que Mary Kingsley, par exemple, c'est un phénomène qu'elle a observé et qu'elle a bien décrit, bien compris, en voyant les côtés rituels de ce cannibalisme, du sens, enfin, des limites, etc. Et là, par exemple, le journaliste l'avait interviewé et avait complètement distorsionné les informations. Alors elle se bat constamment parce qu'elle apporte une voix tout à fait différente. C'est une femme qui n'a pas de complexe vis-à-vis des Africains, elle n'a pas de complexe vis-à-vis de ses contemporains non plus. Elle se promène, elle est libre. Elle dit librement ce qu'elle voit, ce qu'elle pense et elle critique. Et avec beaucoup d'humour aussi, mais elle critique fermement aussi. Bon, je pense qu'elle sera souvent, quelquefois, découragée de voir que sa voix est minoritaire. Mais au moins, elle laisse des témoignages, elle laisse une autre voix sur ce qui se passe. Et puis, il y a quand même d'autres personnes qui dénoncent des scandales. Ben, elle se joint, disons, à ces personnes-là.
Des scandales de quel genre? Justement, qu'on pourrait assimiler au scandale de nos jours, puisque, hélas, on apprend chaque jour, chaque mois, des scandales liés, entre autres, à la coopération, etc. On en reparlera peut-être tout à l'heure, parce que les événements de ces derniers temps ont assez fait la une des journaux. Mais à ce moment-là, c'est déjà ce genre de problème-là.
Oui, par exemple, elle raconte comment le roi Léopold donc a voulu des terres au Congo, donc il a chargé à l'époque l'explorateur Stanley de lui conquérir des territoires, mais il a dû payer très cher, bon, de ça sur sa cassette personnelle. Ben, il faut qu'il se repaye, ça lui a coûté cher. Donc il instaure une taxe très lourde sur les habitants des régions qu'il a conquis et qui les ruine complètement. Et comme les gens essayent de Les Africains s'enfuient dans la jungle pour essayer d'éviter non seulement de payer ses taxes, mais d'être dans des travaux forcés, etc. On rattrape, on met sur place des colonies de miliciens qui rattrapent les gens, les battent, enfin les torturent. Et tout ça, elle l'a vu, puis elle le décrit, et elle en parle et elle le dénonce. Et il y a aussi d'autres voix avec elle qui dénoncent ça, mais qui dénoncent ces brutalités, qui dénoncent le fait que, pourquoi mettre ces impôts à ces Africains qui, non seulement, d'abord ils étaient chez eux, on leur vole leur terre, puis en plus, on leur demande des sacrifices, on les exploite quoi, de toutes les manières possibles. Donc tout ça, elle le dénonce. Tout ça, c'est des choses qui se passaient à l'époque, toutes ces violences. Évidemment, ça n'a pas préparé un XXe siècle tranquille et heureux et développé en Afrique. Ça a mal commencé, si on parle de commencement de l'époque moderne en Afrique.
Bon, ce qui amènera certainement à tous les soulèvements en vue d'une... d'un accès à la dépendance, parce qu'effectivement, l'Angleterre et la Grande-Bretagne, à ce moment-là, sentent que sa puissance est en train de vaciller et qu'il faut bien qu'elle essaie de l'asseoir tant qu'elle peut encore, et puis ça tiendra jusqu'à ce que ça tienne, quoi. Je veux dire, on sait bien qu'après, ça éclatera un peu dans tous les sens. Bon, peut-être d'abord en Inde, où ce sera le plus fort, mais ce sera la même chose en Afrique aussi, finalement.
Oui, mais je pense que c'était... À un moment donné, c'est devenu plus économique de ne plus avoir les colonies, mais d'avoir le genre de relations qu'on a aujourd'hui avec l'Afrique. Enfin, ces relations d'aide liées. Enfin, on dit, Africains, achetez-nous une usine clé en main. Empruntez-nous de l'argent pour l'acheter. Après, achetez-la, elle ne vous servira à rien. Mais entre-temps, on aura graissé la pâte... aux dirigeants qui auront donné leur accord pour acheter l'usine clé en main qui servira peut-être à rien du tout. Ça s'est vu souvent. Ça, c'est aussi des scandales qui ont été souvent dénoncés. Et puis, d'un autre côté, il y aura de l'argent qui entrera en Europe, hein, dans toutes ces entreprises qui vendent tous ces choses aux Africains. J'ai lu... dernièrement, le cas de... Bon, ça, c'est pas l'Afrique, mais ça pourrait arriver en Afrique. Le cas d'une usine nucléaire qui avait été achetée aux Philippines, ce style-là aussi, clé en main. Pour l'acheter, le gouvernement philippin s'était endetté de je sais plus combien, de, je crois, de 100 millions de... je sais plus quelle est la monnaie des Philippines. Enfin, une somme lourde. Donc, le gouvernement s'était endetté pour obtenir cette centrale nucléaire, qui n'a finalement jamais marché un seul jour, parce qu'elle était située dans une zone volcanique très dangereuse, et finalement le gouvernement n'a jamais donné l'autorisation pour qu'elle fonctionne. Donc c'est un style. Mais évidemment, l'entreprise qui l'a construite n'a rien perdu, parce que celle-là, elle a été payée, puis celle-là, c'était une entreprise occidentale.
N'a surtout pas parlé du volcan. Pour revenir à Mary Kingsley, c'est étonnant, depuis le début que tu as commencé à parler... J'ai fait immédiatement un apparentement avec une autre femme qui a commencé à voyager à peu près à cette même époque-là aussi, qui est Alexandra David-Mille. Elle voyage dans une toute autre région du monde puisqu'elle est passionnée par l'Asie et non pas par l'Afrique. Mais c'est rigolo parce que je trouve qu'elles ont un petit peu la même histoire. Bon, pas l'histoire de famille du début, parce que Alexandra David-Mille va quitter sa famille très vite. Au contraire, elle apprendra.
Et va vivre 100 ans.
C'est ça. Voilà, elle ne mourra pas à 37 ans, ça c'est vrai. Mais disons, dans la démarche, le fait d'être cette femme qui va s'affirmer, qui va oser voyager, qui va être parmi des hommes sans arrêt, qui va se confronter aux autres par rapport à ce qu'elle a à dire, c'est vrai qu'elles ont l'air d'avoir un destin un peu particulier. Alors je voudrais te demander quelle impression tu as eue. Moi je sais que plus je lisais des choses sur Alexandra David-Mille, plus je l'entendais causer, plus je l'entendais parler de ses voyages, alors qu'elle me paraissait un personnage magnifique au début, elle me venait petit à petit une femme un peu hostile. Je ne sais pas pourquoi, je la sentais vraiment la femme qui a tellement dû lutter pour exister comme femme voyageuse et spécialiste d'un certain nombre de choses. Bon, parce qu'elle se voulait, elle était, je crois, grande spécialiste du bouddhisme et d'autres choses asiatiques. Eh bien, elle en devenait désagréable parce que tellement... comment dire, combattante, mais à la limite de l'égocentrisme permanent, il n'y a que moi, je suis la plus forte, je suis la plus belle, je sais tout, que finalement, elle en devenait assez désagréable. Est-ce que tu as eu une sensation comme celle-ci avec Mary Kingsley, ou au contraire, tu la sens un personnage beaucoup plus ouvert, qui vit bien ces choses?
Oui, je la sens différente, mais c'est vrai que dans la démarche des deux femmes, on peut faire des parallèles. Mais bon, Alexandra David-Mille, justement, elle a vécu tellement longtemps, elle est devenue très autoritaire, oui. C'est vrai, elle est devenue aigrie vers la fin, elle était difficile à vivre, c'est vrai. Bon, elle n'a peut-être pas eu le temps de devenir comme ça, hein, Mary Kingsley. Mary Kingsley, de toute façon, elle décrit par exemple les Africains avec des couleurs, avec une chaleur, qui te laisse tout le temps l'idée qu'elle a un cœur très grand, cette femme, qu'elle est très généreuse, qu'elle est... Et puis en même temps, c'est une femme, justement, ça n'a pas dû jamais une femme autoritaire. Bon, elle a une espèce de coquetterie, elle dit toujours, elle dit que les Africains l'avaient surnommée « Only me », parce que chaque fois qu'elle entrait quelque part ou qu'elle arrivait quelque part, elle disait « C'est seulement moi ».« It's only me ». Alors, elle le disait tellement souvent. Bon, c'est peut-être une timidité qui est un peu une coquetterie en même temps. Mais c'était en tout cas pas une femme qui s'imposait et qui était désagréable dans ses relations avec les autres. Je pense pas.
Je sais pas si Alexandra Davinil était désagréable, mais disons que à la lire, j'avais petit à petit cette impression. C'est bizarre parce que au début, elle m'a beaucoup passionnée. Oh, elle me passionne toujours par rapport à ce qu'elle a fait, c'est indéniable. Mais dans ses relations avec les gens, c'est vrai que je trouvais que c'était assez ambigu. Du genre, elle visitait, elle profitait aussi beaucoup des structures coloniales quand elle voyageait en Inde. C'est sûr qu'elle allait toujours voir d'abord les ambassadeurs, les gouverneurs, les machins. Hein, ça l'arrangeait beaucoup d'utiliser cette structure-là. Et puis quand après, elle rencontrait les gens du pays. J'avais la sensation qu'elle mettait sur un piédestal ceux qui pouvaient lui être utiles à sa formation, à l'apprentissage de la langue, à découverte de philosophie et autres, tous les érudits. Et puis, le petit peuple, bien, on n'en entendait pas beaucoup parler dans ses récits, si ce n'est dans des études qu'elle faisait. Et ça, je trouvais assez étonnant quand même. Finalement, c'est un paradoxe. À la fois, elle adore, elle dit qu'elle ne peut pas vivre sans le Tibet, sans la Chine, sans beaucoup de choses. Et puis en même temps, elle a l'air d'avoir pas beaucoup de respect et d'estime pour le petit peuple ou le peuple tout court de ces régions-là.
Bon, Mary Kingsley, elle va voir les villageois. Hein. Elle est dans les villages africains. D'abord, il n'y a plus beaucoup de structures de pouvoir en Afrique puisqu'on est en pleine colonisation, hein, justement. Donc, elle voit éventuellement les chefs de village, mais elle m'a jamais donné cette impression de... D'ailleurs, elle reproche beaucoup aux Anglais d'être prétentieux, de ne pas avoir de respect pour les Africains, de rien comprendre à rien. Alors qu'elle, elle essaye vraiment tout le temps de comprendre. Puis elle se met en danger physiquement et de toute manière. C'est une femme qui a beaucoup de courage. Bon, je pense qu'Alexandra Davinil, oui, elle avait beaucoup de courage, oui, aussi pour aller se balader dans les régions où elle est allée. Ça, c'est des femmes de toute façon admirables parce qu'elles ont... Elles ont ce courage. Bon, elles ont sûrement besoin de prendre ces risques. Ça fait partie de, je sais pas, des grands besoins de leur existence. Mais elles le font quand même. Il faut leur reconnaître ça.
Oui, ça c'est sûr. D'autant plus que, bon, elles ont voyagé dans des régions où personne n'allait tout court, je veux dire, aussi souvent. C'est pas, même pas une histoire de femme. C'est découvrir des régions assez perdues et qu'on découvrait, dont on connaît mal les dangers, les difficultés, etc. quoi.
Et alors, pour les lecteurs ou les lectrices qui s'intéressent à l'histoire d'aujourd'hui puis l'histoire d'hier, puisque l'histoire d'aujourd'hui, elle est faite aussi en partie de celle d'hier. Et dans le cas de l'Afrique, elle est faite sur les blessures d'hier, je dirais aussi. Et ce livre, il est très intéressant parce que c'est, pour une fois, la vue d'une femme, c'est assez rare, hein, dans ces bouquins d'histoire d'avoir le point de vue d'une femme et les aventures qu'on peut avoir et les descriptions de ce qu'étaient certaines régions d'Afrique à l'époque, en 1900.
Alexandra Davinil, elle ne parle jamais des femmes, par exemple. Est-ce que Mary Kingsley parle des femmes ?
Oui, oui, elle parle des femmes, elle les juge aussi. Bon, elle parle des femmes, j'ai déjà dit, de ses contemporaines. Et elle parle des femmes africaines, le rapport avec leurs enfants, etc. De beaucoup de manière. Le rapport, d'ailleurs, elle critique certaines choses aussi. Je dis, elle n'a pas de complexe. Elle n'est pas... Elle n'a pas peur d'être raciste ou qu'on l'accuse de ci, de ça. Elle est très naturelle.